Nous allons retourner au texte de Galates aujourd'hui, où nous l'avions laissé il y a, je crois, deux week-ends de cela. On avait commencé à voir les caractéristiques du fruit de l'esprit. Ça fait déjà, avec celui-ci, trois prédications que nous faisons dans ce seul verset. C'est pour dire la profondeur de la parole de Dieu. Donc je lis avec vous Galates 5, 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, ça serait une autre bonne traduction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Très bien. Permettez-moi de faire, comme d'habitude, une petite introduction à ce message et voir quelques aspects du fruit de l'esprit. La première chose que nous avons vue, c'est que l'amour, la joie et la paix sont des vertus qui se relationnent particulièrement avec Dieu. Si on pourrait, parce que, comme je vous avais dit la dernière fois, il y a un fruit, mais neuf aspects ou neuf caractéristiques de ce fruit, ok? On pourrait dire, c'est trois trios. L'amour, la joie et la paix sont des vertus qui, en réalité, si on les examine bien, nous servent à nous relationner avec Dieu premièrement. Même si l'amour, comme nous l'avons vu, doit se manifester aussi avec nos semblables, mais l'amour, la joie et la paix sont des choses qui nous relationnent premièrement avec Dieu. Qui devons-nous aimer plus que tout? Dieu. De qui vient notre joie? Eh bien, du salut que Dieu nous a donné. Et pourquoi nous sommes en paix? Et avec qui nous sommes en paix premièrement? Avec Dieu. Nous avons été réconciliés avec lui par le moyen de Jésus-Christ. Donc, on pourrait dire que l'amour, la joie et la paix sont trois vertus qui se relationnent avec Dieu. La patience, la bonté et la bénignité ou la bienveillance sont des qualités morales et de caractère qui nous aident dans nos relations avec notre semblable. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Même si la patience, la bonté, la bénignité, la bienveillance sont des choses qui nous aident dans la vie spirituelle de manière générale, mais particulièrement, ce sont des choses ou des qualités qui nous aident avec les autres. Quand est-ce que je dois être patient? Quand je suis en relation avec quelqu'un qui demande de ma patience. Vous comprenez? Je ne peux pas être patient si je vis tout seul dans une grotte. Patient avec qui? Mais quand je suis au milieu du peuple de Dieu, j'ai besoin de cet aspect du fruit de l'esprit. Une des choses qu'on pourrait dire à la base de cet enseignement, c'est que le Nouveau Testament, si ce que je viens de dire est vrai, le Nouveau Testament nous enseigne que la vie chrétienne ne se vit pas en autarcie. Tout seul chez moi, avec ma Bible, sans personne autour de moi, et je vais être un bon chrétien. C'est faux. C'est une mauvaise manière de voir la vie chrétienne. La vie chrétienne se vit au milieu du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est un peuple qui malheureusement a encore des défauts. Nous sommes encore des pécheurs et nous allons devoir nous supporter les uns les autres jusqu'à ce que Christ revienne. Ok, donc la patience, la bonté et la bienveillance sont des choses qui nous aident dans nos relations les uns avec les autres. Le troisième trio, la fidélité, la douceur et la tempérance, ou la maîtrise de soi, sont des vertus qui nous sont nécessaires de manière propre. Donc, les trois premiers, c'est dans ma relation avec Dieu, les trois autres, c'est dans ma relation avec les autres, et les trois derniers, c'est quelque chose de plus personnel. On pourrait dire que c'est dans ma relation avec moi-même. Ok? Donc, on pourrait résumer que le fruit de l'esprit touche toute notre vie, toutes nos relations avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Maintenant, une chose importante que nous avions déjà commencé à voir, c'est que le fruit de l'esprit est l'évidence de la présence de l'esprit. Si c'est le fruit de l'esprit, c'est parce que le fruit est présent. Les frères, là où il n'y a pas le fruit de l'esprit ou la manifestation de ce fruit, ici je ne parle pas de perfection, mais d'une manifestation visible, c'est parce qu'il n'y a pas la vie chrétienne. C'est parce qu'il n'y a pas la vie de l'esprit. En réalité, c'est parce qu'il n'y a pas de salut. Écoutez ce que le Seigneur dira dans Matthieu 7, versets 15 à 21. « Gardez-vous des faux prophètes ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des charbons, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comment Jésus ici nous enseigne à reconnaître la vraie vie chrétienne? Parce que j'ai une apparence de piété, d'homme sage qui vient à l'église? Non. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et c'est exactement le fruit en question ici, dans Matthieu 7, c'est exactement ce que nous sommes en train de voir dans Galates 5, 22. Le fruit, c'est le caractère chrétien à l'image de Christ. Le fruit ici, ce ne sont pas simplement beaucoup d'œuvres, beaucoup d'activités chrétiennes. Ce n'est pas le fruit, ça. Le fruit, comme nous avions dit lors de la première prédication, ce ne sont pas les dons de l'esprit. Ce n'est pas le fruit, le don de l'esprit. Le parler en langue, la prophétie, c'est pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est un caractère transformé. C'est d'une personne impatiente à une personne patiente. Une personne qui n'avait pas d'amour à une personne qui est remplie d'amour. Une personne qui était infidèle à une personne qui maintenant devient fidèle. Ça, c'est le fruit. Et Jésus dit, là où vous voyez le fruit, il y a une véritable vie chrétienne. Là où il n'y a pas de fruit, c'est parce que l'arbre n'est pas un bon arbre. C'est un arbre mauvais qui a besoin d'être changé. Maintenant, quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne la quantité et la qualité de ce fruit dans ma vie? Comment est-ce que Dieu désire que ce fruit de l'esprit grandisse et quelle quantité de fruit Dieu espère que ma vie puisse donner? Eh bien, permettez-moi de vous lire quelques versets du chapitre 15 de l'évangile de Jean. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle lui-même. Au verset 1, il est écrit « Je suis le cep et mon Père est le vigneron ». Verset 2 « Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un peu le métier de la vigne, mais quand les vignerons, avant la récolte, bien avant la récolte même, bien avant que les premiers fruits commencent les premières grappes de raisin commencent à grandir dans le cep, vous savez ce qu'ils font? Le cep va donner plusieurs sarments. Donc, plusieurs possibilités de donner du fruit. Mais le problème, c'est que les vignerons savent bien que s'ils laissent tous ces sarments, le fruit va être de moins abondant et de moins bonne qualité. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent. Ils coupent les sarments et ils en laissent que quelques-uns pour que toute la sève, toute la vie du cep puisse venir que au seul serment qu'ils ont laissé et que le fruit soit abondant et de bonne qualité. Eh bien, Jésus est en train de nous enseigner ici que lui, c'est le cep, et que nous sommes les sarments, et que tout sarment qui porte du fruit, vous savez ce que fait Dieu? Il l'émonde. Il est en train de parler exactement de ce que je viens de vous décrire, ce que les vignerons font. Il coupe. Il coupe pour que le sarment en question porte de meilleurs fruits et plus de fruits. Verset 5. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, écoutez ça les frères. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. La question que je vous ai posée avant de vous lire ces versets, c'est combien de fruits dois-je porter? Et quelle qualité Dieu demande de ma vie? Eh bien, Dieu veut que tu portes beaucoup de fruits. En d'autres mots, tu ne peux pas te contenter d'une petite vie chrétienne, d'un petit caractère transformé. J'ai fait quelques progrès en ce qui concerne ma patience, mon amour, ma bonté, ma maîtrise de soi. C'est bon, je m'arrête là. Non. Parce que là où il y a du fruit, Dieu va venir couper, immonder, travailler pour que tu portes beaucoup de fruits. Et si tu es un vrai chrétien, tu sais que ta vie, le but de ta vie, c'est glorifier Dieu. Eh bien, écoute, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est important. Comment les personnes glorifieront Dieu? Parce qu'ils verront en toi un homme, une femme d'un caractère transformé. Ils verront Christ. Et quand le monde voit une personne qui ressemble à Christ dans son caractère, il ne peut pas faire autre chose que louer Dieu. Même les ennemis le loueront pour toi. Donc c'est une chose importante. Une dernière chose importante à rappeler au sujet du fruit de l'esprit, c'est que c'est le fruit de l'esprit, et le fruit de l'esprit, comme le texte l'indique, est au singulier. C'est un seul fruit. Je l'ai déjà dit ça, mais je crois que c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Cette vérité est importante parce qu'il nous est important de désirer toute la manifestation du fruit de l'esprit. Tu ne peux pas choisir entre ces 9 vertus chrétiennes, tu ne peux pas en choisir quelques-unes, celles qui te plaisent à toi. Moi, je veux être une femme patiente, je veux être un homme qui a de la maîtrise de soi, mais être doux, être rempli d'amour, c'est pas pour moi ça. Tu ne peux pas. Puisque c'est un seul fruit, celui qui désire l'amour doit désirer aussi la patience, doit désirer aussi la bonté, doit désirer aussi la bienveillance. Et c'est dans la mesure que l'une de ces vertus va grandir que l'autre aussi. Comment est-ce que grandit un fruit? Par exemple, une orange. Une orange, elle grandit entièrement. Je veux dire, c'est toute l'orange qui est en train de grandir et mûrir. C'est pas une partie de l'orange qui mûrit et l'autre non. Ok? C'est ce que Dieu est en train de nous enseigner ici. Mûrir, porter du fruit, c'est à la mesure où nous sommes en train de grandir, toutes ces manifestations du caractère de Dieu vont se manifester dans notre vie. Ça va? Ok. Ainsi, si l'Esprit est réellement présent dans ma vie, non seulement je grandirai dans l'amour envers Dieu, mais aussi dans la patience envers mon prochain, etc., etc. La patience, la bonté et la bienveillance, qui sont les 3 vertus que nous allons essayer de voir aujourd'hui, c'est étonnant, les frères, parce que ce sont les traits sous lesquels Dieu se révèle le plus souvent. Écoutez, quand Dieu parle de lui, le plus souvent dans les Écritures, il se révèle comme étant un Dieu de patience, de bonté et de bienveillance. Écoutez, Nombre, chapitre 14, verset 18, « L'Éternel est lent à la colère, riche en bonté. » Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Psaume 86, 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Et il y a plein d'autres textes qui parlent de Dieu avec ses caractéristiques. Dieu aurait pu parler de sa force. Dieu aurait pu parler et dire « Je suis l'Éternel, celui qui est très sage, celui qui est très intelligent. » Il est. Il est très sage, il est très intelligent, il est très fort. Mais quand il parle de lui, il se révèle sous les traits d'un Dieu patient, bon, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Et ce sont les 3 choses que nous allons voir aujourd'hui, que nous devons cultiver dans notre vie. Si vous voulez ressembler à votre Dieu, il faut absolument que vous fassiez des efforts pour laisser l'esprit vous transformer à cette image que nous allons voir aujourd'hui. La première chose, donc, c'est la patience. Nous avons déjà vu l'amour, la joie et la paix. Le prochain, c'est la patience. Une meilleure traduction du mot employé par l'apôtre Paul ici, pour nous parler de la patience, serait la longanimité. Longanimité. Ok, c'est un mot compliqué, qui est longanimité. Mais cette parole nous vient du latin, longaminista, c'est un mot composé de deux idées. En latin, c'est un mot composé de deux idées. Comme vous l'entendez dans la prononciation, longus, qu'est-ce que ça veut dire, long? Long, quelque chose de long, ok? Qui veut dire donc quelque chose qui est lent, quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui est long, ok? Et l'autre c'est animus, qui veut dire âme ou courage. Ok, pourquoi longanimité? Qu'est-ce que veut dire ce mot quand on dit long et âme ou courage? Cela veut dire que c'est une âme qui est longue à se mettre en colère. La longanimité, c'est la vertu de Dieu qui est quelque chose qui le caractérise et qui fait de lui un Dieu qui est lent à se mettre en colère. Dieu est long. Avant de se mettre en colère, il faut beaucoup de temps. Donc, patience, on pourrait résumer ainsi, la patience, c'est la vertu avec laquelle on endure les offenses, on supporte les fautes qu'on aurait pu pouvoir faire cesser et punir. Être patient ou être quelqu'un qui a de la longanimité, c'est quelqu'un qui, sous la persécution, comment ? Non, c'est pas de l'indulgence. La patience, c'est pas de l'indulgence. L'indulgence, c'est autre chose. La patience, c'est sous la pression et le mal qu'on est en train de subir. Être patient, c'est être long à se mettre en colère. Alors qu'on aurait pu faire cesser la chose. Avec justice. Avec nos droits. Imaginez si quelqu'un m'insulte. Eh bien, être patient, j'aurais pu lui dire, arrête, cesse de faire ça, et je serai dans mon droit. Mais être patient, c'est supporter cette insulte, la supporter, ne pas laisser mon âme se mettre en colère et répondre à cette offense, alors que j'aurai le droit de le faire. Mais c'est être patient sous la pression. Et ce trait de caractère est quelque chose qui caractérise le plus notre Dieu. Écoutez ce passage. Encore une fois, Exode 34, versets 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui. Quand Moïse va lui dire, Seigneur, fais-moi voir ta face, laisse-moi voir ta gloire. Et Dieu va lui dire, non, non, Moïse, aucun homme ne peut me voir et vivre. Mais je vais faire une chose. Je vais te cacher dans le rocher et je passerai devant toi. Et c'est intéressant que quand Dieu va révéler sa gloire à Moïse, au lieu de lui faire voir quelque chose, il va lui apprendre quelque chose à son sujet. L'Éternel s'écria, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, nous trouvons ici le sens de la patience dans notre texte. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Vous voyez? Dieu est lent à la colère, longanimité. Il ne se met pas en colère immédiatement quand le pécheur se rebelle contre lui. Il est quelqu'un qui garde patience. De Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9. Et ici, le contexte est très important. Certains hommes, Pierre nous dit qu'à la fin, avant que le Seigneur revienne en gloire pour sauver son peuple, certains hommes, et ça arrive déjà, diront où est la promesse de sa venue. Ça fait 2000 ans qu'on est en train de dire Jésus va revenir, Jésus va revenir, Jésus va revenir. Et où il est? Et certains hommes vont critiquer le peuple de Dieu, vont persécuter le peuple de Dieu, mettre à l'épreuve leur foi en disant, vous voyez, il a promis qu'il allait revenir, mais il n'est pas là encore. Mais écoutez, la raison pour laquelle Dieu n'est pas encore revenu. Pierre nous donne une des raisons pour lesquelles le Seigneur n'est pas encore revenu. Et vous allez voir que la raison pour laquelle Dieu n'est pas encore revenu pour sauver son peuple, nous emmener dans la gloire, mais châtier les méchants, parce que ça va de pair, c'est parce qu'il est patient avec les pécheurs. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais écoutez, il use de patience envers vous, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pourquoi Dieu n'est pas encore venu juger le monde? Parce qu'il est patient. Malgré que le monde se rebelle contre lui, imaginez ce que Dieu doit être conscient. De quoi Dieu doit être conscient? Imaginez tout le mal qui se commet chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Dieu est conscient de tout ça. Il voit. La Bible dit que l'Éternel a les yeux sur les œuvres des hommes. Dieu est conscient de tout ce qui se passe, de ce que fait chaque personne. Imaginez maintenant comment la patience de Dieu est grande. Au lieu de se lever de son trône et dire, ça y est, je vais les exterminer, il garde patience, il est lent à la colère, parce qu'il veut que les personnes viennent à la repentance et ne soient pas détruites. Très bien, les frères. Quelle est donc, à la lumière de ce que nous venons de dire, la manière de pratiquer ce que Dieu veut, en l'occurrence la patience? Comment est-ce que nous devrions voir le fruit de l'esprit de la patience dans notre vie? Il veut que nous soyons capables de supporter les offenses et les injustices avec calme et tranquillité, sans perdre notre contrôle. Pourquoi nous nous mettons en colère? Je veux te faire réfléchir aujourd'hui. Pourquoi tu te mets en colère? Et quand est-ce que tu te mets en colère? Si tu réfléchis bien, ta colère est toujours quelque chose qui te gagne. C'est comme si il y a un feu ici, et tu sens qu'il monte. Et à un moment donné, tu n'arrives plus à le contenir, hop, et ça sort. D'accord? C'est ça la colère, n'est-ce pas? Ok. Eh bien, être quelqu'un de patient, c'est être quelqu'un... Et je vous rassure, les frères, c'est impossible de faire ça sans l'œuvre de l'Esprit. Souvenez-vous de ce que nous sommes en train de dire ici, c'est une grâce. C'est le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas toi qui vas produire ça. Mais Dieu est capable de te rendre patient. Dieu est capable de te faire quelqu'un qui arrive à maintenir cette colère. La patience est la qualité de l'âme qui donne de la place à l'autre. Écoute, ça c'est important. Et lui laisse du temps pour pouvoir prendre conscience de son péché et s'en repentir. Si nous avons dit que Dieu est en train de retarder sa venue afin que les hommes se repentent, c'est exactement la même chose, la patience en ce qui nous concerne. Être patient, je veux que ça se grave dans ta tête, être patient, c'est donner de l'espace à l'autre, c'est donner du temps à l'autre, de la place, pour qu'il comprenne son péché et se repente. Parce que si tu te mets en colère immédiatement après l'offense, tu ne lui as pas laissé le temps de se repentir. Tu ne lui as pas laissé le temps de penser à ce qu'il a fait. Donc, être patient, c'est laisser de la place. Je vais lui laisser le temps. Je vais contenir toute cette colère, juste peut-être des fois, cette envie que j'ai de lui dire les quatre vérités, et des fois c'est vrai, tu as raison, mais être patient, c'est te contenir. Et dire, je vais laisser le temps que le Seigneur travaille sa vie pour lui permettre de comprendre et de venir vers moi et de se repentir. C'est ça, être patient. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec les pécheurs. Romains chapitre 2, verset 4, pardon. Écoutez ce que Paul dira. Ou méprises-tu les richesses de la bonté, de sa patience et de sa longanimité, nous retrouvons ici notre parole, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La patience ici, dans la bouche de Paul, en ce qui concerne Dieu, a pour force d'amener le pécheur à la repentance. Ne reconnaissant pas que la patience et la longanimité de Dieu devraient te pousser à la repentance. Quand je suis patient avec quelqu'un qui m'offense, cela devrait le faire réfléchir et dire, waouh, il ne me répond pas. il répond pas à, il aurait le droit de me punir, mais il ne le fait pas, alors je dois me repentir. Maintenant, envers qui devons-nous exercer la patience? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Pour nous, les hommes. Envers qui devons-nous, même pour vous, les femmes, envers qui devez-vous être patient? Eh bien, envers tous. Envers tous. Il n'y a pas d'exception ici. Nous devons être patients envers tous, principalement envers ceux de la maison de Dieu. Éphésiens 4, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ok. Quelle est la manière digne de marcher? Quelle est cette manière digne? En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Ça, c'est la manière digne de marcher et de répondre à la grâce que Dieu nous a fait, la vocation que Dieu nous a fait. C'est de marcher d'une manière humble, douce et patiente, en nous supportant les uns les autres, en étant lents, souviens-toi de ça, lents à la colère les uns envers les autres, lents à nous irriter, lents à répondre, lents à demander de l'autre des efforts. Oui, mais il est dur, lui, il comprend pas. Eh bien, tu dois être patient. Tu dois laisser le temps que le Seigneur travaille ta vie. Souviens-toi toujours de ça. Et moi aussi, les frères, j'en ai besoin de me souvenir de ça. C'est pour ça que le Seigneur nous parle de ça dans sa parole aujourd'hui. Dieu est 100 000 fois plus patient avec toi que ce que toi, tu es patient avec les autres. Avant d'être impatient avec les autres, souviens-toi de la patience que Dieu a avec toi. S'il te traiterait comme toi, tu voudrais traiter les autres. Où tu saurais? Si Dieu réagirait immédiatement quand tu commets un péché, quand tu commets un faux pas, quand tu as mauvais caractère, si Dieu te paierait immédiatement selon ce qu'il te doit, eh bien plus personne n'existerait dans ce monde. On serait tous sous la colère de Dieu en enfer. Mais Dieu est patient. Dieu est lent à la colère avec nous. Et nous devons l'être aussi. Une dernière chose au sujet de la patience, ensuite nous passerons à l'autre vertu. Mais souvent on a coutume de dire, nous, qui c'est qui a une... Quand on voit un homme qui est dur, il se médite en colère, qu'est-ce qu'on dit de cet homme? Il a un caractère fort. N'est-ce pas? C'est tout le contraire du concept biblique. Dans la Bible, celui qui a un caractère fort, c'est celui qui a un caractère doux. Alors maintenant, je dois vous expliquer pourquoi. Pourquoi dans les Écritures, celui qui a un caractère fort, c'est celui qui a un caractère doux? Parce que imaginez-vous la force qu'il faut pour contenir sa colère. Écoutez ce que Proverbe 14, verset 29 dit. Celui qui est lent à la colère, patient, a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Celui qui est lent à la colère est quelqu'un de très intelligent et fort. Pourquoi? Parce qu'il arrive à se contenir. Dieu est l'être le plus fort et le plus sage qui puisse exister. Pourquoi? Parce qu'il contient, imaginez-vous la colère ardente de Dieu. Ça doit être quelque chose d'incroyable. Eh bien, Dieu arrive à la contenir. Il arrive à maîtriser cette colère. Et un jour, elle va sortir, mais elle sortira quand lui l'aura déterminé. Elle est sous contrôle, cette colère. Eh bien, Dieu dit que l'homme fort ou la femme qui est forte, c'est un homme ou une femme qui arrive à se contrôler. Elle est pleine de sagesse. Mais le fou, l'insensé, le faible, dans d'autres passages, est celui qui proclame sa folie et qui se laisse s'emporter à la moindre étincelle. Donc, soyons forts, les frères. Soyons forts. Être fort, c'est être patient. C'est être rempli de miséricorde et d'amour pour les autres. C'est ça, être fort. Donc, on va voir les deux autres aspects. Donc, on a vu la patience. Passons maintenant à la qualité chrétienne qui est décrite dans notre passage comme la bonté et la bienveillance. Une des choses que je dois dire avant de vous exposer ces deux choses, ces deux caractéristiques du fruit de l'esprit, c'est qu'ils sont très synonymes. J'ai regardé pendant que j'étudiais ce passage « bonté » dans notre passage et l'autre mot « bienveillance », en réalité, elle pourrait se traduire et vice-versa. C'est presque la même chose. Maintenant, donc étymologiquement, c'est presque la même chose. Maintenant, nous devons nous demander pourquoi Paul, inspiré par l'esprit, d'accord, il ne dit pas ces mots parce qu'il a envie. Bonté, bienveillance. Il dit ça parce que Dieu veut qu'il dise ça. Donc, si le Seigneur, si l'Esprit de Dieu a inspiré Paul pour qu'il parle de la bonté comme une des caractéristiques du fruit et de la bienveillance comme une autre caractéristique, c'est parce qu'il y a une différence entre les deux, entre la bonté et la bienveillance, même si celles-ci sont très liées. Elles sont très liées. Bonté et bienveillance sont très liées. Maintenant, qu'est-ce que c'est la bonté ? Dans notre passage. La bonté fait ici référence à avoir une bonne disposition pour une personne ou désirer profondément son bien. Quand on dit d'une personne c'est une bonne personne dans la Bible, c'est parce que c'est une personne qui a un cœur qui désire et qui est bonne, donc qui a des bons désirs et qui désire de bonnes choses pour les autres. Cela parle de la qualité du cœur, de la qualité de la personne. C'est pour ça qu'on dit, souvent on dit, c'est une bonne personne. Qu'est-ce que veut dire c'est une bonne personne? On est en train de dire, il y a des qualités en elle, des choses qui me font dire que c'est une bonne personne, parce qu'elle a des bons désirs. C'est quelqu'un de bien intentionné. Le mot que Paul emploie est utilisé 4 fois dans le Nouveau Testament et une des fois dans le passage que nous sommes en train d'étudier ce matin. Et c'est intéressant de voir les 3 autres endroits où le Nouveau Testament emploie ce mot pour bonté, pour que nous comprenions qu'est-ce que nous enseigne la Bible à ce sujet. Qu'est-ce que c'est être une personne bonne, une bonne personne. Le premier texte se trouve dans Romains 15, verset 14, il est écrit: pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Vous êtes pleins de bonnes dispositions. Qu'est-ce que c'est avoir des bonnes dispositions? Eh bien, c'est avoir un cœur qui médite de bonnes choses. Être une personne qui a cette caractéristique du fruit de l'esprit dans sa vie, la bonté, c'est être une personne qui médite de bonnes choses. Le Seigneur Jésus dira à un moment donné, l'homme bon, qu'est-ce qu'il fait? Il tire de bonnes choses de son cœur. L'homme mauvais tire de mauvaises choses de son cœur. Donc, être une bonne personne, c'est avoir des bonnes dispositions. Éphésiens 5, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière ici, la lumière c'est la vérité dans notre passage, souvent, c'est Dieu aussi, mais souvent ici c'est la vérité. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. 2 Thessaloniciens, verset 1, chapitre 1, verset 11. C'est pourquoi aussi nous vous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ce texte particulièrement nous renseigne au sujet de la bonté et vous allez voir pourquoi je vous dis que c'est différent de la bienveillance, parce que la bonté, c'est méditer de bonnes choses. Mais la bienveillance, c'est les faire. Quelle est la différence entre la bonté et la bienveillance dans le sens biblique? C'est que la bonté, c'est méditer de bonnes choses dans mon cœur pour quelqu'un. La bienveillance, c'est faire de bonnes choses pour quelqu'un. Et ici, comment est-ce que nous voyons que Dieu est bon? C'est-à-dire, il a médité de bonnes choses pour nous. C'est ce que nous dit Paul dans ce texte. Il dit, pour que nous soyons jugés dignes de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. Dieu a des plans. Il a médité de bonnes choses pour son peuple. Et Paul est en train de prier pour que ces bonnes choses de Dieu s'accomplissent dans la vie de l'Église des Éphésiens. Donc, la bonté nous parle de la bonne disposition du cœur. Maintenant, comment est ton degré de bonté? Est-ce que tu te surprends souvent à penser de bonnes choses, à méditer sur de bonnes choses pour des hommes, pour les personnes qui t'entourent? Es-tu une personne bonne? Ou est-ce que tu te surprends souvent à ruminer dans ton cœur, ah, celui-là il m'a fait ça, celui-là. Attention, je suis pas en train de te juger, je suis comme toi. Moi aussi, j'ai mes périodes où je rumine. Mais ce que je veux vous enseigner, en tout cas ce que le Seigneur veut vous enseigner aujourd'hui, c'est que tu ne dois pas tolérer que ton cœur ait des mauvaises dispositions. Nous devons lutter contre ces mauvaises dispositions. Nous devons nous efforcer et pleurer devant le Seigneur, devant l'Esprit. Seigneur, donne-moi à manifester cette caractéristique de l'Esprit. Je veux être une personne bonne. Une bonne personne remplie de bonté, ayant de bonnes dispositions pour mes semblables. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais il faut que tu gagnes le mal par le bien. C'est ce que la Bible dit. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Nous combattons tous le même combat, les frères. Et le combat ne se joue pas ailleurs que là. Si tu gagnes là et là, dans ton cœur et dans ta tête, tu as gagné. Tout le reste, ça va aller. Il faut gagner dans son cœur. Il faut gagner la bataille spirituelle qu'il y a en nous. Et Dieu se chargera de tout le reste. D'accord? Donc, bonté. Dernier aspect, la bénignité ou la bienveillance. Une fois encore, quand nous regardons comment le Nouveau Testament emploie cette parole, nous nous rendons compte que la bienveillance est la manifestation par des actes de la bonté. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est la bonne disposition de mon cœur mise en lumière. Quand je suis bienveillant, c'est je suis une personne qui non simplement pense bien pour les autres, mais le fait. Non simplement je dis à Antonio, je t'aime beaucoup, je voudrais que tu ailles bien, mais je vais faire des choses pour que le désir qu'il y a dans mon cœur s'accomplisse dans la vie d'Antonio. Dieu aime. Nous l'avons vu tout à l'heure, Dieu a de bonnes dispositions, des bons plans. Mais est-ce que le plan de Dieu s'est arrêté juste à des bonnes pensées pour les hommes? Est-ce que Dieu juste, il a dit, bon, j'aimerais que les hommes soient sauvés, que les hommes viennent au salut? Est-ce qu'il a juste dit ça? Non, mais quand les temps furent accomplis, il a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il se fasse malédiction pour nous, et que nous, nous devenions justice de Dieu en lui. Si Dieu juste aurait des bonnes pensées à notre sujet, on serait encore perdu. Mais Dieu n'a pas eu que des bonnes pensées. En ce qui nous concerne, de la bonté dans son cœur, il a eu de la bienveillance. Il a envoyé son fils pour mourir à ta place. La bonté et la bienveillance donc vont de pair. La bienveillance, c'est extérioriser la bonté que nous avons pour les autres. Tite 3, verset 4. Mais lorsque la bonté, regardez, de Dieu notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions pu faire, mais à cause de sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Lorsque la bonté de Dieu, ce qu'il y avait dans son cœur, a été manifestée. Ça, c'est la bienveillance. Éphésiens 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Être bon, c'est être patient, c'est rechercher le bien de l'autre avec efficacité et de manière active. Très bien. Peut-être que vous êtes désespéré ce soir, aujourd'hui, comme moi. Parce que je ne vous cache pas, les frères, que quand je regarde ma vie, il y a tellement de choses que je voudrais changer. Je suis tellement désespéré quand je vois tellement peu de bonté dans mon cœur, tellement peu de bienveillance, tellement peu de patience. Je suis quelqu'un de très impatient. Qu'est-ce qu'on fait alors? On baisse les bras? Non. Quelle est la première chose que je vais vous inviter à faire ce matin? Priez. Et ne priez pas de manière désordonnée. Priez au Seigneur de manière intelligente et précise. C'est-à-dire, nous sommes en train de voir qu'est-ce que c'est le vrai caractère chrétien. Demande pour ces choses. Ne demande pas à Dieu Seigneur, bénis-moi. Non, demande à Dieu Seigneur, rends-moi patient. Fais grandir en moi cette caractéristique de l'esprit. Seigneur, je veux que le fruit de l'esprit grandisse dans ma vie. Toutes ces facettes de la vie de Christ, je veux les voir en moi. De plus en plus. Et pas Seigneur, bénis-moi ou Seigneur, bénis mon frère ou bénis ma sœur. Non, prie Seigneur, fais que mon frère ait un cœur bon. Fais grandir la bienveillance, Seigneur, dans notre Église. Ne permets pas que nous soyons des personnes qui aiment seulement de lèvres, mais que nous donnions nos vies pour les autres, que nous aimions activement les autres. C'est la bienveillance, ça. C'est ça, la prière. La prière, c'est demander de manière efficace. Quand, imaginez, si ton fils vient et il te dit, papa, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Qu'est-ce que tu vas lui répondre immédiatement? Eh bien, c'est de cette manière que souvent on va prier au Seigneur. Seigneur, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Mais le Seigneur attend qu'on lui dise, quoi? Eh bien, Seigneur, c'est ça que je veux. C'est le caractère de ton fils. Donc, la première chose que je vous invite à faire, c'est de prier. Et priez-le tous les jours. Demandez au Seigneur tous les jours qu'il vous fasse grandir. Parce que c'est une œuvre de grâce, les frères. Quand je vous disais tout à l'heure que je suis quelquefois moi aussi démoralisé je dis Seigneur, est-ce qu'un jour je vais changer? Eh bien, la parole de Dieu aujourd'hui nous donne de l'espoir parce que c'est le fruit de l'Esprit, c'est une grâce de l'Esprit. Et l'Esprit est capable de le faire. Nous l'avons vu, non, déjà dans cette épître? C'est l'Esprit qui est capable. C'est lui qui, lui est capable de te changer, de te transformer. Paul a commencé son ministère juste avant en étant un persécuteur de l'Église. Il a fini comme un homme qui a donné sa vie pour les chrétiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit, les frères. Dieu est capable de prendre un homme ou une femme complètement dans le péché, inondé dans le péché. Donc, tout le contraire de ce que nous sommes en train de voir, et de le transformer un jour à l'image de son Fils. Parfaitement. Il est capable de le faire. C'est la puissance de Dieu qui les a. Donc ne désespère pas, c'est pas dans tes forces à toi, c'est pas dans ta puissance à toi, c'est dans la puissance de Christ, de son esprit. Maintenant, est-ce que je suis en train de t'enseigner que toi tu ne dois rien faire? Non. Et écoutez l'image que John MacArthur donne de ce que je suis en train de dire. Il dit, le fruit de l'esprit ici, c'est comme si un homme est en train de ramasser des fruits dans un arbre, et quelqu'un est en train de l'aider en bas. Quand il cueille et qu'il jette en bas les fruits, pour que les fruits parviennent à la table où il faut manger, il faut non simplement que quelqu'un cueille les fruits, mais aussi que la personne qui est en bas avec le panier soit au bon endroit. Ou sinon les fruits vont tomber par terre. Et bien c'est de cette manière que la croissance dans l'esprit se fait dans nos vies. Non simplement nous devons demander à Dieu Seigneur, c'est pas dans mes forces à moi, c'est toi qui peux le faire, mais nous devons être aussi au bon endroit. Nous devons être au bon endroit. Nous devons désirer ça. Bien sûr que ça se fait au travers de la parole de Dieu, de ce que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui. Mais désire-le. Si tu sors d'ici aujourd'hui en disant, ouais, c'était bien, mais bon, j'en veux pas, moi, de la patience dans ma vie, ne t'attends pas à devenir plus patient. Même si c'est Dieu qui le fait. Non, tu dois le désirer et te mettre sous la grâce de Dieu pour que toutes ces choses puissent grandir en toi. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance. Voici ce que nous avons vu jusqu'à maintenant sur le caractère chrétien. Ok, laissez-moi faire une dernière application pour les non-chrétiens. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir ici, ou comment, peut-être que pour toi, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'était chinois. Oui, mais tu te sens pas touché pour ça. Mais c'est normal. C'est normal, tu sais pourquoi? Parce que pour toi, toutes ces choses, peut-être même que tu te dis, je les ai déjà. Je suis déjà quelqu'un de patient. Je suis déjà quelqu'un de bon. J'aime les autres. J'en ai pas besoin de Christ. J'ai pas besoin de son esprit pour faire ça. Eh bien, détrompe-toi. La Bible enseigne que tu ne peux pas produire ces choses. Tu es perdu, privé de la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Et si tu es perdu, privé de la gloire de Dieu, tu ne pourras jamais parvenir à vraiment avoir le fruit de l'Esprit dans ta vie, ses caractéristiques, la patience, la bonté, l'amour, tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Tu es perdu. Toi, tu ne dois pas commencer par essayer de manifester ces choses dans ta vie pour que Dieu te sauve. Ce que tu as besoin, c'est de venir à la repentance aujourd'hui. Pour que Dieu te sauve et qu'ensuite il te transforme. Il te donne son esprit. N'essaye pas d'impressionner Dieu par ta patience. Par ta bonté. Il ne te sauvera pas parce que tu es quelqu'un de patient. Il veut te sauver pour te rendre patient. Essayer d'impressionner Dieu par tes œuvres, ça serait essayer de te sauver tout seul. Et tu ne peux pas. Tu dois venir à Christ aujourd'hui. Comme quelqu'un qui est mendiant. Qu'est-ce que c'est un mendiant? Comment est-ce qu'un mendiant se relationne avec quelqu'un qui peut le bénir en lui donnant à manger ou en lui donnant quelque chose? Comment est-ce qu'il fait un mendiant? Il tend la main. Il ne vient pas en disant, moi je suis un tel, donne-moi à manger. Il revendique rien. Il vient comme ça, s'il te plaît. Donne-moi. Si tu ne me donnes pas, je meurs. Eh bien, c'est de cette manière que tu dois venir à Christ aujourd'hui. Pas en disant, Seigneur, regarde-moi parce que je suis une fille bien, parce que je suis un garçon, que son père, il est un chrétien, parce que je suis quelqu'un qui essaye de faire le bien. Non, tu dois venir à Jésus en disant, Seigneur, j'ai rien. J'ai rien. Si tu me payerais selon mes œuvres, j'irai en enfer immédiatement. Mais je te bénis, ô Dieu du ciel, parce que tu es lent à la colère, et tu l'as été envers moi jusqu'à maintenant. Je décide aujourd'hui de me tourner vers toi. Donne-moi le salut. Si tu fais ça aujourd'hui, véritablement, si tu t'humilies devant Dieu aujourd'hui, il est capable de te sauver. Il est capable de te donner une vie nouvelle. Son esprit te transformera. Viens à Christ. Viens à Christ aujourd'hui.